VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Science et Santé. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Les manifestants hostiles au président burundais, Pierre Nkurunziza, ont de nouveau défié la police ce lundi dans les rues de Bujumbura, mais également en province, où au moins un protestataire a été tué par les tirs des policiers. Un bilan fourni par l'AFP, nous dit Jacques Aristide.
Le drame s'est produit à Mugamba, dans la province de Bururi. C'est à 60 km au sud-est de la capitale. La police a ouvert le feu sur une centaine de manifestants, rapporte l'AFP. Fusillade qui a donc fait une victime, mais aussi deux blessés. L'incident intervient après un week-end de trêve endeuillé par l'assassinat de l'opposant burundais Zedi Feruzi, une figure du mouvement actuel contre le pouvoir présidentiel. Après sa mort, la coordination anti-troisième mandat a suspendu sa participation à des négociations avec le gouvernement sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Dialogue qui se limitait à des questions autour des manifestations, alors que le cœur du problème, la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, n'était pas encore abordée. Un diplomate a laissé entendre que seuls les chefs d'État des pays de la région, qui doivent se retrouver dans les prochains jours, pourraient être en mesure de débloquer la situation. En attendant, le bras de fer se poursuit entre manifestants et forces de l'ordre qui avaient pris position ce lundi dès l'aube dans et autour des habituels quartiers contestataires de Bujumbura pour empêcher tout rassemblement.
Lutte contre Boko Haram au Nigeria. Des avions de chasse nigérians ont bombardé 4 villages occupés par la secte islamiste dans le nord-est du pays, près de la frontière camerounaise. C'est ce qu'indiquent des habitants en fuite et des parents des victimes cités par l'AFP. Il s'agirait des villages de Douwou, Djarawa, Maloum, Madja et Moudou, situés dans l'état de Borno. Les bombardements de dimanche auraient duré 6 heures. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Il est très peu probable que qui que ce soit ait survécu dans ces villages, au vu de l'intensité des bombardements, a estimé un témoin dans un village voisin. Ceux qui étaient gardés en otage ont certainement péri avec les islamistes, selon les habitants. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend que 10 personnes ont été massacrées à la machette par des islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Un responsable local et cité par l'AFP souligne que l'attaque a eu lieu vendredi matin dans le village reculé de Pambula Kwanda dans l'état de l'Adamawa. Les assaillants seraient arrivés dans le village tôt le matin alors que les habitants dormaient encore et ils ont utilisé des machettes pour attaquer leurs victimes. Au Burkina Faso, l'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État a commencé ce matin à Ouagadougou en présence des familles et de leurs avocats. Claire Morin-Gibourg a joint maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
Depuis ce matin, effectivement, la procédure donc d'exhumation est en cours. C'est une exhumation placée sous le sceau de la justice, donc la confidentialité judiciaire. Et nous avons là les différents experts nationaux et internationaux qui sont là. Nous avons également la police scientifique et nous avons donc les familles, les représentants des différentes familles et les avocats des différentes familles qui sont présents aussi. Le grand public, lui, est maintenu hors du cimetière, un peu loin donc des travaux.
Qu'attendez-vous de cette exhumation, maître ?
C'est d'abord de pouvoir identifier exactement et les restes des différentes personnes qui se trouvent dans le temps, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'exhumation seulement de la tombe de Thomas Sankara, mais il s'agit de l'exhumation de tous les autres compagnons qui étaient à l'esprit. Et ensuite, l'exhumation devrait pouvoir permettre aux institutions d'avoir des éléments scientifiques sur les causes de la mort. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait donc un médecin militaire qui avait donc fait des certificats médicaux, des certificats de décès, attestant que Thomas Sankara, par exemple, était mort de mort naturelle. Mais nous attendons que les résultats de cette expertise puissent non seulement permettre de l'identifier, mais également pouvoir nous dire quelle était la cause probable de la mort.
Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara. L'Église catholique hausse le ton en République démocratique du Congo. Dans un message publié à l'occasion de la fête chrétienne de la Pentecôte, les évêques accusent les autorités qui laisseraient pourrir la situation dans l'est du pays. Ils s'insurgent notamment contre la série de massacres commis depuis octobre dans la région de Beni, dans le nord Kivu, ayant débordé jusqu'aux confins de la province orientale voisine. Conflit au Soudan du Sud, l'armée affirme avoir repris le plein contrôle de la ville stratégique de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil. Les forces ennemies ont été complètement détruites, assure l'armée sud-soudanaise, citée par l'AFP. Plus sur cette guerre qui oppose les forces loyales au président Salva Kiir dans un peu plus de 20 minutes dans Le Monde Aujourd'hui. Fusillade dans une caserne de Tunis, un caporal de l'armée a tué lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, 7 de ses camarades avant d'être abattu. D'après l'AFP, les autorités tunisiennes privilégient la piste d'un acte isolé et non terroriste. Le tueur ayant des problèmes familiaux et psychologique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, le premier ministre irakien Haider al-Abadi a déclaré que la ville de Ramadi sera reprise aux islamistes dans les prochains jours et non pas dans des semaines. Nathalie Barge.
Dans une interview avec la BBC, le dirigeant irakien a admis que les islamistes ont débordé les forces militaires dans un recul spectaculaire qui a incité dimanche le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, à questionner la volonté de l'Irak de vaincre le groupe État islamique. Mais M. al-Abadi a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à repousser la nouvelle ligne de front dans le conflit. Ce sera dans les prochains jours, je peux vous assurer, ils ont remporté cette bataille, cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné, a-t-il affirmé en réponse à Ashton Carter, qui avait douté de la volonté du gouvernement irakien. Ce qui s'est passé apparemment est que les forces irakiennes n'ont montré aucune volonté de se battre, a déclaré dimanche M. Carter, ajoutant qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les islamistes. La conseillère à la sécurité nationale américaine, Susan Rice, a fait écho aux préoccupations du secrétaire à la défense sur la chaîne CBS. Les forces de sécurité irakiennes font face à leurs propres défis internes. C'est une force inégale en termes de volonté, d'équipement et de leadership, a déclaré Mme Rice, ajoutant que les États-Unis travaillent avec eux pour répondre à ce qu'elle a qualifié de faiblesse. Peu de temps après les déclarations des officiels américains, le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Parlement irakien, Hakim al-Zamili, a dit à Associated Press que les commentaires d'Ashton Carter sont irréalistes et sans fondement. Selon lui, les États-Unis essaient de rejeter la faute sur l'Irak après l'échec de Washington à fournir un bon équipement, des armes et un soutien aérien, a rétorqué M. Zamili.
Au moins 430 personnes ont trouvé la mort en Inde dans une vague de chaleur atteignant jusqu'à 50 degrés centigrades. Des précisions avec Eddie Sango.
Ces chiffres sont provisoires car, selon les autorités indiennes, les bilans pourraient s'aggraver étant donné que les mercures tendent à rester autour des 50 degrés Celsius. Les États du Telangana et de l'Andhra Pradesh, voisins de New Delhi, la capitale, sont les plus touchés. Des coupures d'électricité y sont fréquentes. Un haut responsable de la gestion des catastrophes naturelles de l'État d'Andhra Pradesh, P. Tulsi Rani, a dit à l'AFP que la majorité des victimes ont été exposées directement au soleil, avait 50 ans ou plus et était issu de la classe ouvrière. Dans les Telangana, 188 personnes sont mortes, la plupart en milieu de semaine passée, mais le bilan, qui doit encore être confirmé, continue d'augmenter, a déclaré à l'AFP Devani, un responsable de l'unité de gestion des catastrophes de cet État. B.R. Mena, au responsable de l'État de Telangana, a reconnu que la vague de chaleur actuelle était légèrement plus forte que d'habitude. Chaque année, la chaleur tue des centaines de personnes en Inde, principalement parmi les plus pauvres. Les autorités exhortent la population à ne pas travailler trop longtemps sous le soleil. Il est aussi recommandé de porter un chapeau, de boire beaucoup d'eau et de porter des vêtements en coton.
Et des avions de combat américains ont escorté un appareil d'Air France jusqu'à son atterrissage à New York aujourd'hui, après une menace anonyme à l'arme chimique. Selon les responsables d'Air France, les passagers ont débarqué normalement. Une inspection de l'avion est en cours en début d'après-midi. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec, et je cède la place à Bagessi Koura dans Carrefour Sciences et Santé.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.